les individus de race noire ou leurs descendants qui sont nés ou vivent habituellement dans la province et ne possèdent pas encore l'instruction et les habitudes personnelles et sociales, sans lesquelles il ne peut y avoir application intégrale du droit public et privé des citoyens. Un Africain pouvait changer de statut et acquérir la citoyenneté portugaise. Ça et là, il remplissait toutes les conditions suivantes : avoir 18 ans révolus et parler correctement le portugais, exercer une profession, un métier ou emploi assurant à l'intéressé des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille à sa charge, ou posséder des ressources suffisantes à cette fin, être de bonne vie et mœurs, ne pas avoir été inscrit comme réfractaire au service militaire et ne pas avoir déserté. Ainsi, l'Africain recevait le statut de citoyen en qualité de « assimilado », une fois ces conditions remplies. Le statut particulier de l'indigéna impliquait qu'il n'était pas « civilisé ». En fait, il y a une répartition de la population en deux grandes catégories, les « civilizado », civilisés, et les « nao civilizado », non civilisés. La partie civilisée de la population regroupait toutes les personnes d'origine européenne, portugais et étrangers, et les Africains reconnus comme « civilisés ». Selon le recensement de 1950, moins de 1% de la population africaine d'Angola était officiellement classée dans la catégorie des « civilisés ». Le statut de l'indigénat avait également des implications économiques et sociales. L'indigène était soumis au travail forcé pour le compte de l'État ainsi qu'à la culture obligatoire du coton. De même, il ne pouvait acquérir des titres de propriété foncière. Le Portugal refuse de prêter attention à l'évolution des événements en Afrique et reste donc au dehors des mouvements anticoloniaux nés de la guerre. En novembre 1960, une déclaration officielle précisait « Nous ne sommes pas en Afrique comme tant d'autres. Nous continuerons comme par le passé notre politique de assimilation. Pour cela, il nous faut être ce que nous avons toujours été et nous ne changerons pas. » Devant cette volonté de ne rien changer, et comme aucune action légale n'était possible, la lutte armée va s'engager dans la plupart des colonies, notamment en Angola et en Guinée-Bissau. 2. La décolonisation de la Guinée-Bissau a la lutte pour l'indépendance. La Guinée-Bissau était la plus pauvre des colonies portugaises sur le continent africain. Le régime du docteur Antonio de Oliveira Salazar, 1889-1966, considérait la Guinée-Bissau comme une colonie d'exploitation mercantile. La population bissau-guinéenne est peu dense. Elle compte plusieurs ethnies. Peul, Balante, Mandjak, qui pratiquent essentiellement l'agriculture. C'est pourquoi, en 1954, Salazar fit une distinction entre la population non civilisée et les assimilado, sachant lire et écrire le portugais. Ces derniers représentaient 0,39% de la population totale. Le 19 mars 1956, le Partido Africano da Independência da Guinée à Cabo Verde, parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAIGC, vit le jour sous forme d'un mouvement clandestin ayant son siège hors de Guinée-Bissau. À partir de cette date, plusieurs grèves furent organisées par les travailleurs revendiquant des augmentations de salaire. Le PAIGEC est fondé par Amilcar Cabral, 1921-1973, qui fit des études d'agronomie au Portugal et devint en 1952 fonctionnaire en Guinée. Jugé dangereux, il est affecté en Angola. Lors d'un de ses retours à Bissau, il crée ce mouvement avec 5 camarades, dont son demi-frère Luiz de Almeida Cabral et Aristides Preira. Le PAIGEC va s'orienter rapidement vers la lutte armée suite à 2 événements majeurs. En 1957, la police intérieure de la défense de l'État, PID, ou police secrète portugaise, s'installe à la répression, allait s'accentuer en conséquence. Le 3 août 1959, les autorités ouvrirent le feu sur les dockers en grève de Pidjigiti. 50 personnes furent tuées et un grand nombre de blessés, tandis que d'autres étaient arrêtés. Aidés par ces coups tourés, Amilcar Cabral fonde à Conakry en 1960 une école de cadres et des bases d'entraînement. 3 ans après, le PAIGEC emploie la tactique qui consiste à créer des zones libérées, à l'intérieur desquelles on installe un embryon d'administration, des écoles, des hôpitaux. En 1970, les 5000 combattants du mouvement ont libéré 2-3 de la Guinée-Blaise. Bissau, le Portugal gardant le contrôle des zones urbaines grâce à une armée forte de 40 000 soldats. Du 2 au 8 avril 1972, une mission spéciale des Nations Unies visite les « zones libérées » de Bissau et apprécie les réalisations sociales, sanitaires et éducatives. Ainsi, l'ONU considère le Païjk comme seul et authentique représentant des populations du territoire de Guinée et réaffirme le droit inaliénable de celle-ci à l'indépendance. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné par un dissident du PAIGC. Mais l'Assemblée nationale populaire proclame le 24 septembre 1973 l'indépendance de la Guinée-Bissau, qui devient très vite membre de l'UA le 20 novembre 1973. Devant cette situation de fait, le Portugal va négocier un désengagement avec les leaders du PAIGC. B. Le coup d'État au Portugal et ses conséquences, le 25 avril 1974, le coup d'État du mouvement des forces armées, qui est le fait de jeunes officiers, renverse le gouvernement de Marcelo Caetano, 1906-1980, révolution des œillets, et met fin au régime dictatorial du Portugal. Le mot d'ordre est « démocratie chez nous, décolonisation en Afrique ». Le Païjk accepte d'aller négocier à Londres à partir du 25 mai 1974. Mais deux problèmes subsistent. Le mouvement veut l'indépendance immédiate alors que le Portugal veut procéder par étapes. Les Portugais veulent dissocier la Guinée-Bissau du Cap-Vert alors que, pour le Païjk, la lutte du Cap-Vert est inséparable de celle de la Guinée. Après l'échec de la rencontre de Londres, un nouveau gouvernement s'installe au Portugal le 13 juillet 1974. Les négociations reprennent à Alger. Kurt Waldheim, né en 1918, quatrième SG des Nations Unies de 1972 à 1981, secrétaire général de l'ONU, effectue le déplacement au Portugal le 29 juillet. Finalement, le 10 septembre 1974, à Lisbonne, l'acte reconnaissant formellement l'indépendance de la Guinée-Bissau a été signé. NB. Le cas de l'archipel du Cap-Vert. Le Cap-Vert n'a pas connu de résistance armée et était proche du Portugal à cause de sa population et de sa géographie. Les mouvements étaient défavorables à une indépendance séparée et à une coopération avec le Portugal. Le 21 décembre 1974, suite à un accord entre le PAIG et le Portugal, l'indépendance est fixée au 5 juillet 1975. 3. Sur le plan juridique, l'Angola devient un département depuis la Constitution de 1933. Les nombreux avantages accordés aux colons, de bonnes terres, expliquent leur afflux de plus en plus important, 35 000 entre 1900 et 1950. Cette minorité de colons portugais exploite la majorité des indigènes, qui sont considérés comme des sujets subissant le travail forcé. Cette population non assimilée s'opposait à une minorité de métis, considérés comme assimilés ou assimilado, 30 000, parce que sachant lire et écrire le portugais, citoyen portugais. Les non assimilés, qui sont victimes de l'injustice et de l'arbitraire du système colonial, vont s'organiser dans le cadre de mouvements nationalistes pour réclamer l'indépendance de leur pays. B. Naissance et évolution des mouvements nationalistes. Les mouvements nationalistes, longtemps étouffés par les pesanteurs d'un système colonial rigide, se réveillent à partir des années 1950. Parmi ceux-ci, on peut noter le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, créé en 1956 par Mario do Andrade, 1928-1990, et dirigé par Agostinho Neto, 1922-1979. Ce mouvement d'orientation communiste réclame l'indépendance. Le FNLA, fondé en 1962, est dirigé par Roberto Holden. Ce mouvement d'orientation libérale réclame l'indépendance. Le UNITA, fondé en 1966. Ce mouvement est né d'une scission du FNLA. Il est dirigé par Jonas Savimbi. C. La guerre d'indépendance devant l'entêtement du Portugal qui n'entrevoit aucune évolution politique de ses colonies. les mouvements nationalistes engagent la lutte armée par des attaques de planteurs portugais et des attentats urbains. Le gouvernement portugais, dirigé par le dictateur Salazar, refuse la voie de la négociation et cherche à écraser la répression de la lutte armée qui se poursuit jusqu'en 1974. Le nouveau régime mis en place par le général Spinola le 25 avril 1974, à la suite du coup d'État, Révolution des œillets, marque un tournant dans la décolonisation portugaise.